Vendredi, c'est achevé le procès de Tarnac, donc le procès en correctionnel, qui a duré 3 semaines, ce qui est déjà exceptionnel. La durée de ce procès, 3 semaines pour un procès en correctionnel, bon. Ça s'est achevé vendredi, et les 3 derniers jours ont été consacrés aux plaidoiries. Alors, c'est toujours comme ça que ça se passe. C'est d'abord l'accusation, et ensuite, vient le temps des plaidoiries de la défense. Donc, dans les accusations, il y a eu d'abord les avocats de la SNCF, puisqu'il y a eu dégradation des voies de chemin de fer, enfin des caténaires. Puis ensuite, le parquet, 2 procureurs, Renucci et Christen, qui se sont lancés dans leur grande tirade, leur plaidoirie. Donc, pour la SNCF, en gros, ils demandent du fric. Ils demandent 75 000 euros. Il y a eu un petit débat parce qu'en fait, ils demandaient 59 000 euros plus 1 euro symbolique s'ils étaient condamnés pour association de malfaiteurs, plus 15 000 euros. Et puis il y a eu foutage de gueule parce qu'ils n'étaient pas foutus de faire le compte correctement. Donc c'est 60 ou 75 000 euros demandés pour la SNCF. Pour le parquet, pour le ministère public, c'est un petit peu plus compliqué et un petit peu plus loufoque. Ce qui est soutenu par les 2 procureurs, c'est qu'ils sont évidemment coupables. Évidemment coupables de ce dont on les accuse. Mais bon, c'est 10 ans après, et puis on est bien sympa. Donc, on va quand même pas les renvoyer en prison. Hein. Donc, en gros, ils sont coupables de sabotage, ils sont coupables d'association de malfaiteurs, ils sont coupables de faux et d'usage de faux, ils sont coupables d'avoir refusé les prélèvements ADN, mais on est sympa. Et on les renvoie pas en prison. Alors, en gros, dans les peines qui sont demandées, c'est systématiquement de la prison, mais avec sursis. Par exemple, pour Julien Coupa, il est demandé 4 ans de prison, dont 6 mois ferme. Sauf que les 6 mois ferme, c'est les 6 mois qu'il a fait en détention provisoire. Pareil pour Hildune Lévy, il est demandé 2 ans de prison, mais que 2 mois ferme. Elle les a déjà fait. Du coup, on voit bien que, en gros, tout tombe, quoi. Et ces deux-là, enfin, Coupa et Lévy, on demande à ce qu'ils soient condamnés sur des faits de sabotage et association de malfaiteurs. Pour le refus de prélèvement ADN, c'est un peu emmerdant. Le procureur, là, c'est Renucci, qui rappelle que c'est grave de ne pas se soumettre à un prélèvement ADN, que c'est ce qui permet de constituer les fichiers et que la police et la justice en ont besoin. Et il rappelle quand même que les fichiers ADN sont conservés 40 ans pour les gens qui sont reconnus coupables, 25 ans si on est innocent. 25 ans si on est innocent, enfin, il faudra qu'on nous explique. Mais là, il ne demande rien, il se positionne pas, il laisse le soin au tribunal d'apprécier la peine qui sera prononcée, notamment contre Mathieu Burnel, qui est concerné. Ça sent, quoi qu'il arrive, déjà l'appel des deux côtés. Si jamais ils sont relaxés pour tout, le ministère public admettra pas qu'il y ait une relaxe sur du prélèvement ADN. Enfin, ils y tiennent tellement à leur fichier de merde que voilà. Et donc on voit bien que là, il y a tout qui tombe en fait. Il y a 10 ans, c'était une affaire de terrorisme. Aujourd'hui, on veut pas les renvoyer en prison parce qu'on est sympa. Il y a tout qui tombe sauf un truc qui est extrêmement grave. Si jamais ils sont condamnés pour ça, c'est une première, en fait, et c'est vraiment alarmant. L'association de malfaiteurs serait constituée parce qu'ils ils ont préparé une manifestation à Vichy. Et en gros, ça veut dire que toute personne qui travaille ensemble à des débordements de dispositifs de police sur des manifestations, alors c'est une association de malfaiteurs. Et d'ailleurs, il faut aller voir, il y a un super article sur le site Reporter, qui s'appelle De Tarnac à Bure, pardon, j'y arrive, De Tarnac à Bure, l'association de malfaiteurs sert à réprimer les luttes. Et en gros, c'est ça qui est vraiment problématique. Donc voilà, les réquisitions, elles sont là. Si vraiment est retenue l'association de malfaiteurs parce qu'on prépare une manifestation, on a quand même des chances de tous se retrouver un jour dans une association de malfaiteurs. Là, en étant en train de faire de la radio, on est peut-être dans une association de malfaiteurs. Donc ça, c'était les réquisitions du parquet. Les 2 derniers jours, c'était la défense. Et là, c'est tellement fort ce qui s'y est passé que j'ai essayé de retranscrire à peu près, parce que ça se, y a pas de, c'est pas filmé, on n'a pas de son, on n'a même pas le droit de... Enfin, les seules choses qui transparaissent, c'est les dessins. Il n'y avait que des journalistes qui étaient présents dans la salle qui avaient le droit de tweeter en direct. Et donc, en gros, j'ai repris les tweets du site Lundi Matin, de Radio Vassivière et de Ingrid Merckx pour Politis. Alors, les plaidoiries, je vais juste m'attarder sur la dernière, celle de Jérémy Assou, qui est l'avocat de 7 des 8 prévenus. Et la plaidoirie d'Assou, après avoir démonté tout, point par point, sa plaidoirie a duré 3 heures, il conclut de cette manière. À l'heure où les libertés publiques ne cessent de se réduire comme peau de chagrin au nom de l'antiterrorisme, vous, juges, êtes les derniers garants de l'Union. Votre décision est attendue de tous, mais surtout des justiciables. Vous devez répondre à cette question. Validez-vous ces méthodes? Il a été porté atteinte à l'honneur de la police. Je vous demande de préserver celui de la justice. Voilà. C'est assez clair. Toutes les méthodes utilisées par l'antiterrorisme ont été dézinguées, en fait, durant ces 3 semaines de procès. Les flics ont témoigné de manière anonyme. Ils se sont contredits. Il y a un des cinq témoins anonymes qui s'est complètement écroulé pendant le procès, qui disait « bah, je sais pas trop ce qu'on a fait. On a fait comme ça, on sait qu'on n'aurait pas dû. » Enfin, tout s'est effondré. Donc voilà, ils leur demandent de préserver l'honneur de la justice. Et puis, comme dans tout procès en correctionnel, les derniers à pouvoir prendre la parole sont les prévenus. Sur les 8 prévenus, il y en a 4 qui vont prendre la parole. Et là aussi, c'est très codifié, ça se passe dans l'ordre alphabétique. Et ça commence par Mathieu Burnel, puis ce sera Julien Coupa, puis Hildune Lévy, et c'est Benjamin Rozou qui terminera. Mathieu Burnel va commencer en rappelant à la présidente qu'elle lui a dit la veille que Julien Coupa et lui étaient les deux personnes les plus mal élevées qu'elle ait rencontrées. Et donc il lui dit « Ce que vous avez trouvé hors du commun, c'est que nous n'en rentrions pas dans ce tribunal en baissant les yeux, que nous ne soyons pas soumis à votre petit rituel. Nous avons été les seuls à ne pas jouer un rôle, à ne pas jouer à la justice. Nous avons parlé quand cela nous semblait nécessaire, ri quand c'était drôle, fait bloc quand il le fallait. Ce que nous avons fait, c'est ce que nous savons faire, nous battre. Vous vous attendiez à des terroristes. Vous avez compris au long de ces 3 longues semaines d'audience que ce qu'il y a de plus singulier chez les révolutionnaires, c'est ce qu'ils ont de profondément commun. Nous nous sommes tenus à cette infime vérité. Vous ne nous écrasez pas, nous et nos amis, qui sont nombreux. Vous êtes finalement moins libres que nous. Nous, nous pouvons ne pas jouer. Vous ne pouvez pas juger. Vous pouvez simplement essayer de sauver l'honneur de l'institution. » Donc ça, c'est Mathieu Burnel. Il faut savoir que pendant ce temps-là, une partie des avocats était un peu consternée. Notamment les avocats d'Hildune Lévy. Parce que c'est... Ils sont dans la posture de ce qu'on leur a reproché pendant 3 semaines. Pendant 3 semaines, les journalistes ont passé leur temps à parler d'impertinence, à parler d'excès. Ce qui démontre là, c'est juste ils sont pas impertinents. Ils se défendent. Et ils l'ont toujours fait. Donc après, c'est le tour de Julien Coupa. Julien Coupa, on lui dit « Vous voulez prendre la parole ?» Pas vraiment. Quelques remarques impressionnistes. Il commence en disant que c'est quand même surprenant, un procès d'assises correctionnelles. Parce qu'en effet, c'est un procès en correctionnel. Si c'était toujours la qualification de terrorisme, il serait passé aux assises. Mais il y a un caractère exceptionnel dans ce procès en correctionnel. Donc voilà, remarque impressionniste. Et puis il entame. Ça fait 1000 ans que ce palais de justice est ici. Ça fait 1000 ans que l'humanité y souffre. Le simple fait de ne pas courber la tête, de se défendre, est pris pour un geste inqualifiable, qui ajoute à la culpabilité. Ce qu'on a touché du doigt, c'est l'irrationalité profonde qui se loge au cœur de la raison d'État. Tous ceux qui ont soutenu ce dossier ont mal fini. Et il cite Michel Alliot-Marie, aux poubelles de l'histoire. Alain Bauer, il faut lire les rapports de la Cour des comptes, Squarcini qui sort et qui rentre de garde à vue, et puis c'est même pas la peine de tellement gloser, il parle de Nicolas Sarkozy et de Brice Hortefeux. Et puis, il va terminer en citant Michel Foucault dans un texte qui s'appelle « Se défendre ». Ce n'est pas parce qu'il y a des lois, ce n'est pas parce que j'ai des droits que je suis habilité à me défendre. C'est dans la mesure où je me défends que mes droits existent et que la loi me respecte. C'est donc avant tout la dynamique de la défense qui peut donner aux lois et aux droits une valeur pour nous indispensable. Le droit n'est rien s'il ne prend vie dans la défense qu'il provoque. Et seule la défense donne valablement force à la loi. Il rappelle aussi que si le tribunal peut juger, si vous pouvez nous juger au nom du peuple français, c'est parce qu'un certain 14 juillet, des gens ont fait une émeute et se sont même attaqués à une prison. En France, toutes les républiques sont nées dans l'émeute. Et il conclut, la véritable anomalie de ce procès, c'est de tomber sur des gens armés pour se défendre, bénéficiant d'un mouvement de soutien dans la population et déterminés à ne pas se faire écraser. Considérer exceptionnel le fait que les prévenus puissent parler au cours d'une audience en dit long sur ce qu'est un procès pénal. Nous sommes absolument conscients de la chance que nous avons eue, de la chance de pouvoir parler, d'avoir 3 semaines pour déployer un dossier. Je souhaite dédier ce procès à tous ceux qui n'ont aucun moyen de se défendre, qui n'ont pas leur mot à dire et qui sont condamnés en silence. C'est... enfin... quand même, quoi. Cœur. Et puis, restent 2 autres prévenus qui vont décider de prendre la parole. Hildune Lévy, donc, qui elle aussi risquait... enfin, c'était... avec Julien Coupa, elle est de ceux qui risquaient le plus gros. Hildune Lévy regrette sur ce procès d'avoir toujours été considérée comme la numéro 2 de quelque chose, ou la femme de Julien Coupa. Et de rappeler qu'en tant que femme, il faut toujours tout déconstruire. Et que si on se tait, on passe pour soumis, et si on parle, alors on passe pour une impertinente. Et elle termine par des mots très beaux. Elle termine en disant « Je continuerai à ouvrir des mondes partout où cela sera possible. » Et puis le tout dernier, c'est Benjamin Rozou. Benjamin Rozou, c'est... lui, il est là pour refus de prélèvement ADN. Et lui, il va plutôt parler de la SNCF. Et ça résonne avec aujourd'hui. Il dit « Les cheminots se portent comme seuls garants contre leur direction. Je trouve douteux que de l'argent de la SNCF soit utilisé pour agir dans ce procès. » Donc c'est terminé. Et le délibéré, enfin c'est mis en délibéré. Le verdict sera rendu le 12 avril à 10h. Le 12 avril, ça fera 10 ans, jour pour jour. Le 12 avril 2008, c'est la date de la première pièce qui a été mise au dossier pour l'affaire de Tarnac.